c'est le premier épisode de ma série consacrée à l'année 1972. Au programme, le nazi Klaus Barbie, enfin démasqué. La construction de la tour Montparnasse, qui fait comme d'habitude des grincheux. L'arrivée de la troisième chaîne de télévision et la disparition de Maurice Chevalier.
1972, on de la raconte sur Europe 1.
En février 1972, le journaliste d'Antenne 2 Ladislas de Hoyos est envoyé à La Paz, en Bolivie, pour tenter de confondre le criminel de guerre nazi, Klaus Barbie. Il se cacherait, dit-on, sous l'identité de Klaus Altmann. Une interview a été négociée avec le ministère de l'Intérieur bolivien, qui a posé ses conditions. Les questions devront être posées en amont et en espagnol. Mais très vite, dans le seul but de piéger Altmann, Ladislas de Hoyos passe de l'espagnol à l'allemand, puis au français.
Alors maintenant, je montre les photographies de Barbie qui avaient été prises au moment de la guerre. Je les présente à Monsieur Altmann pour voir s'il les reconnaît. Haben Sie diese Bilder gesehen?
Ja, die habe ich gesehen. Die sind in der Zeitung veröffentlicht worden. Mm-hmm. Ich habe auch die anderen Bilder gesehen. Ich selbst finde keine. Das sind Bilder von einem jungen Mann.
Je ne vois pas de ressemblance entre moi et ce jeune homme, répond le bonhomme. L'avocate Beat Klarsfeld, qui accompagne l'équipe de tournage et qui se bat depuis des années pour faire juger l'ancien nazi, est pourtant absolument formelle. Derrière Altmann se cache Klaus Barbie.
Alors dans votre esprit, il est certain que Klaus Altmann et Klaus Barbie ne font qu'un seul homme.
Ah oui, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, le procureur de Munich l'a confirmé hier à 100%. D'ailleurs, la même coïncidence sur les dates de naissance du fils, qui serait né le 11-12-46 à Kassel, près de Leipzig. Donc, cette ville n'existe même pas. Mais en effet, Klaus Georg Barbie est né le 11-12-46 à Kassel.
Oui, mais alors, pour se défendre, M. Altmann dit qu'il... qu'il est trop jeune et qu'il n'avait à l'époque de la guerre que 24 ou 25 ans, qui par conséquent il aurait été trop jeune pour être chef de la Gestapo à Lyon.
Non, ça c'est pas vrai. Il était à l'époque, il avait 29 ans à peu près. Et d'ailleurs, je crois il y a les dépêches qu'il a données sur sa date de naissance, ça change chaque fois.
Et pour l'avocat Serge Klarsfeld, l'époux de Beat, la présence de Klaus Barbie en Amérique du Sud est tout à fait crédible.
Il est très facile pour un homme comme lui, de trouver de nombreux refuges un peu partout à travers l'Amérique du Sud. En Bolivie même d'abord, il est probable, surtout s'il est depuis 21 ans, qu'il connaît d'autres anciens nazis réfugiés là-bas, installés là-bas. Au Chili, il y avait, avant l'avenue au pouvoir du président Allende, des organisations néo-nazies chiliennes extrêmement puissantes et bien organisées, dont l'une notamment publiait un journal qui s'appelait Cruz Gamada, la Croix Gammée, qui avait des représentations dans toutes les régions du Chili. Alors par conséquent, les points de chute ne manquent pas. Il faut encore ajouter la République argentine également.
Ce qui laisse en revanche Serge Klarsfeld perplexe, c'est la raison pour laquelle Barbie, alias Klaus Altmann, a accepté cette interview filmée.
Ça, alors là, c'est pour moi quelque chose de tout à fait incompréhensible. Il a fourni là un matériel de comparaison tout à fait extraordinaire et difficilement remplaçable.
Est-ce que ça vous donne l'idée de penser qu'il pourrait ne pas être Barbie ?
Non, ça ne me fait pas tirer de conclusion dans aucun sens, parce que s'il est Barbie et qu'il est installé là-bas depuis 21 ans, il a pu essayer de faire front. Vous comprenez, c'était tout de même une attitude également défendable.
Quand il apprend que Barbie a été identifié, le président français Pompidou exige son extradition. Une réaction soutenue par cet ancien résistant, M. Dubaillon.
Et que ressent maintenant le résistant que vous étiez ? Est-ce de l'amertume ?
C'est pas de l'amertume, c'est un peu de déception. Si Altmann est Barbie, sa naturalisation comme citoyen bolivien est une fausse naturalisation, c'est une usurpation et par conséquent, je pense que le gouvernement bolivien est mal fondé pour refuser l'extradition. Ceci dit, il n'appartient pas aux témoins de l'époque d'apporter la preuve que Altmann Et Monsieur Klaus Barbie, le tortionnaire de la région lyonnaise pendant l'occupation, il appartient au service anthropométrique à faire la preuve. Je crois que la preuve est faite, étant donné que le président de la République est allé jusqu'à envoyer une lettre demandant, recommandant l'extradition de Klaus Altmann.
Ça fait plus de 30 ans que M. Dubaillon se bat aux côtés des époux Klarsfeld pour retrouver des criminels nazis. Et pour faire avancer leur cause, ils ont médiatisé leur combat. Ce que certains ne sont pas d'ailleurs loin de leur reprocher.
On nous a reproché d'avoir fait trop de bruit, en disant, mais vous avez fait tellement de bruit qu'il s'est caché, il est allé au Pérou. Et je ne crois pas, parce que s'il n'y avait pas eu une sorte de battage, pour employer un mot un peu vulgaire, eh bien, je ne crois pas qu'on serait arrivé à presque le saisir.
Pensez-vous qu'il y ait actuellement en France des gens qui avaient intérêt à ce que Barbie ne soit pas extradé, ne revienne pas ici s'expliquer sur ces crimes?
Bon, c'est possible que certaines personnes soient gênées, mais ça ne m'intéresse pas. En tout cas, si la vérité doit ressurgir, même après 29 ans, je crois qu'il est nécessaire que tout soit tenté. Je souhaite qu'il soit extradé, jugé, je pense, condamné.
Klaus Altmann finit par reconnaître qu'il est Klaus Barbie. Et donc dans la foulée, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean de Lipovski, réaffirme la volonté de la France de le voir extradé.
Pour personne désormais, le doute n'est possible, Altmann et Barbie constituent bien un seul et même personnage. Toutefois, s'il subsistait encore des doutes, malgré les aveux de l'intéressé lui-même, nous sommes prêts à provoquer auprès des autorités boliviennes une confrontation d'Altmann Barbie avec les témoins de son identité, et nous demandons que cette confrontation ait lieu en présence du directeur de la justice militaire française. Le président de la République a confirmé que le gouvernement français continuait avec une extrême énergie à demander l'extradition de Barbie. L'extradition, cela veut dire, monsieur Barrel, et je le dis solennellement du haut de cette tribune, que nous ne nous contenterons pas d'une expulsion qui serait trop facile et qui permettrait ensuite à monsieur Barbie de disparaître dans le lacis des complicités ou des complaisances vers d'autres pays où il pourrait trouver un refuge.
Les Français veulent que la Bolivie leur livre Barbie. Mais sur place, le général Hugo Banzer Suarez refuse l'extradition.
Ainsi donc, le paisible homme d'affaires naturalisé bolivien, soupçonné d'être Klaus Barbie, le tortionnaire de la Gestapo de Lyon que nous avions retrouvé à La Paz, risquerait tout au plus une simple amende pour avoir falsifié des documents. Cette prise de position semble donc classer le dossier Altmann, décision prise, sans même attendre que le cas soit examiné par la Cour suprême de justice siégeant à Sucre.
Il faudra attendre la chute de Banzer en 1983 pour que l'extradition de Klaus Barbie soit possible. Son procès se déroulera à Lyon 4 ans plus tard, en 1987, et il sera condamné à la prison à perpétuité. Il est mort depuis d'un cancer pendant sa détention.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Début 1972, on construit des tours à tour de bras à Paris, notamment dans le quartier de la Défense.
L'histoire a commencé en 1964. Paris avait besoin d'un quartier d'affaires. La Défense fut choisie. Les constructions étaient de peu d'intérêt. Les architectes choisirent un urbanisme vertical, une architecture de notre époque. Les tours commencèrent à s'édifier, le quartier à prendre figure. Les Parisiens lui trouvaient fière allure.
Mais au mois de septembre 72, problème. On se rend compte que l'une des tours en construction est beaucoup plus haute que prévu.
Récemment, une affaire a éclaté. Une tour a surgi plus haute que les autres de 70 mètres et elle était visible par temps très clair de la fameuse perspective des Tuileries.
Et par ailleurs, depuis les Champs-Élysées, on s'aperçoit que la tour est dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Pour les associations de grincheux, c'est inadmissible.
Ce sont des tours beaucoup plus hautes que celles qui étaient prévues originellement qui sont en train de détruire une des plus belles perspectives du monde. Car du carrousel à l'étoile, il faut tout de même poser le problème comme il se pose vraiment aux yeux de tous les Parisiens. Nous sommes sur une voie qui est sans exemple dans le monde, dont la beauté est célèbre, et personne n'a le droit d'y planter des verrues.
Réponse de Pierre Dufaux, qui est à l'origine de cette fameuse tour, il faut vivre avec son temps.
La vie est faite d'apports successifs. L'architecture et l'urbanisme, c'est la même chose. Il y a eu l'apport de Louis XV, il y a eu l'apport de Charles X, il y a eu l'apport de Napoléon III, et il y a l'apport de notre époque. C'est un témoignage. Alors, abîmer, c'est une question très subjective. On aurait dit figurer effectivement l'axe des Champs-Élysées, si au rond-point des Champs-Élysées, on m'avait autorisé à construire en plein milieu du rond-point un gratte-ciel qui aurait complètement oblitéré la vue. Alors là, j'aurais évidemment abîmé l'Arc de Triomphe.
Un autre architecte, Bernard Zerfus, a vu, lui, tous ses projets refusés. Pour lui, il y a une certaine anarchie dans ce projet d'aménagement de la Défense.
Il aurait fallu que ce soit dans un certain ordre et que les nécessités, justement, de cet équilibre financier malheureux ont fait que ces tours ont poussé un petit peu n'importe où, n'est-ce pas ? Si bien qu'au fond, on a cet aspect désordonné, alors qu'avant, dans le plan initial, il y avait de l'ordre.
Finalement, cette tour et les autres verront bien le jour. Cette même année, une autre tour fait polémique dans la capitale. Et cette fois, elle est construite en plein Paris, dans le quartier du Montparnasse.
Est-ce qu'elle vous plaît ?
Elle me plaît, moi je trouve que c'est affreux. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est affreux.
Vous ne voyez pas, ça les figure toute la vie.
Avec ses vitres noires, je trouve que c'est atroce de voir cette tour sombre. C'est insolite dans un quartier qui avait déjà un caractère suffisamment agréable. On n'avait qu'à faire ça en dehors de Paris, une ville nouvelle.
Et si ça tombe ?
C'est pas pour nous, hein, ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça beau ?
Bah, c'est pas mal que ça soit comme ça ou autrement. On est dans le modernisme, on est dans le 20e siècle. Nous, les croulants, on n'en peut plus en parler.
Face aux critiques, Jean Toxon, l'un des promoteurs immobiliers en charge de la construction, est obligé de monter au créneau. Non, cette tour ne défigure pas le quartier. Au contraire.
Voilà, vous avez la tour. Alors, la tour, c'est une horreur. D'abord, elle n'est pas encore construite. C'est déjà une horreur. C'est déjà quelque chose d'affreux à mettre dans Paris. Alors là, vous avez Paname. Bon, vous avez l'hôtel avec le numéro 17. Vous avez des pignons. Vous avez des toits de vieilles briques dégueulasses. Vous trouvez que c'est plaisant ? Montparnasse est une chose qui est faite par les Français, avec une technique française, avec des volumes fabuleux. Je vous donne quelques chiffres, pas pour vous ennuyer indéfiniment. Quelques chiffres. La tour Eiffel pèse 7000 tonnes. Tour Montparnasse, 130 000 tonnes. On a fait un trou ici, dans ces 2 hectares. Eh bien, on a sorti la terre jusqu'à une profondeur de 70 mètres.
C'est indestructible, cette affaire.
Pour un temps, en tout cas.
Pour combien de temps, d'après vous ?
Des siècles et des siècles.
Ça ne vous fait pas peur de construire pour des siècles ?
Pas du tout.
Le promoteur Jean-Claude Aron, lui aussi, monte au créneau pour défendre la tour Montparnasse. Il est certain qu'elle deviendra un jour très populaire.
Personnellement, je ne trouve pas la tour triste. Il ne faut pas oublier que plus une tour est sombre, plus une fenêtre existe sur une façade, plus elle reflète le ciel. La seule chose que je puisse regretter, mais malheureusement c'est trop tard, c'est pas moi qui en ai dessiné ainsi, c'est qu'en fait, vu la largeur de la tour, il lui manque peut-être 20 étages, 70, 80 mètres, qui l'auraient peut-être allégé. Par contre, vu de la rue de Rennes, notre tour me paraît fabuleusement élancée et très belle. Il n'est pas exclu de penser que ces 70, 80 mètres supplémentaires l'auraient rendue encore plus plaisante à tous.
Et plus populaire ?
Oui, populaire, car sa popularité n'a pas commencé. Et je suis convaincu, je l'ai également dit souvent, que dans quelques années, sa popularité ne sera peut-être pas à l'égal de la Tour Eiffel, mais ne sera pas loin de la rejoindre.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1972.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec 2 arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. dans le jardin, une voix chanta. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Vous avez bien entendu reconnu Jacques Dutronc et son petit jardin, parole de Jacques Lanzmann.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1972, à la télé, la deuxième chaîne fait la part belle aux séries, avec d'abord Tanguy et la Verdure dans Les Chevaliers du Ciel. À la télé en 72, il y a aussi l'incontournable Ma sorcière bien-aimée. Ces séries sont installées depuis plusieurs années. Mais en 1972, une nouvelle série au charme so british débarque. Le 3 octobre 1972, Roger Moore et Tony Curtis font équipe pour la première fois dans Amicalement Votre, une série anglaise de 24 épisodes qui fait un carton. Elle sera diffusée pendant des années. Sur la deuxième chaîne, 1972 est aussi marqué par l'arrivée d'un tout nouveau jeu, des chiffres et des lettres. C'est le jeune Patrice Laffont qui est aux manettes.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. Comme vous allez le constater, ce jeu est très simple et je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec des explications un peu fastidieuses. En fait, il reprend le principe du mot le plus long, que beaucoup d'entre vous connaissent et retrouveront, j'espère, avec plaisir. Mais dans cette émission, Armand Jameau a associé au mot le plus long un nouveau jeu de chiffres que nous appellerons le compte est bon et qui va vous permettre de faire des opérations de calcul mental.
Pour le jeu des lettres, les candidats doivent composer des mots de 7 lettres. Et voici le tout premier tirage de l'histoire du jeu qui oppose Madame Cooks, mère au foyer, à Monsieur Poncio, représentant.
Top !
4 lettres.
4 lettres, Madame Cooks.
Pas mieux.
Pas mieux.
Joie.
J-O-I-E. Espérons que ce sera un bon présage pour vous, Monsieur Poncio.
Je l'espère.
Vous marquez donc 4 points.
Monsieur Poncio dégaine le premier, mais c'est Madame Cooks qui est la première à remporter le jeu.
Eh bien, malheureusement, non, enfin je dis malheureusement pour Monsieur Poncio, le jeu vient de s'arrêter. Madame Cooks a 29 points, Monsieur Poncio en a 24. Je crois qu'il n'y a pas aucune contestation possible. Madame Cooks et notre premier vainqueur de notre nouveau jeu. Madame Cooks, je pense que ça va, vous êtes contente. Vous avez eu un petit flottement au milieu du jeu,
oui.
Et puis vous êtes reprise. Monsieur Poncio, je suis absolument désolé pour vous, mais en tout cas, vous avez été très gentil de nous faire le plaisir de venir inaugurer ce jeu. C'est la première fois, c'est quand même difficile, hein. On n'est pas encore tout à fait...
Ben, on n'est pas tellement rodé, et puis tous ces spots impressionnaient un peu.
Donc vous n'êtes pas là trop impressionné. Mais en tout cas, c'est une femme qui a gagné, c'est...
C'est bien comme ça, non?
Oui, je pense.
Vous serrez la main ou ça se fait
d'habitude? Ah oui, quand même. On pourra même s'embrasser en coulisses.
47 ans plus tard, Patrice Lafont, interrogé sur Europe 1, a tout oublié de cette première fois.
Est-ce que vous vous souvenez, Patrice Lafont, de Madame Coux, C-O-U-X, et de Monsieur Pensiot? C'était les tout premiers candidats le 4 janvier 1972. Elle était mariée, mère de famille. Lui était représentant de commerce. Les tout premiers candidats des chiffres et des lettres. Est-ce que vous vous souvenez du premier mot?
Non, je me souviens de moi, parce que j'ai revu cette séquence assez souvent, qui était absolument terrible, si mauvais, que je me demande comment j'aurais pu faire une petite carrière après. Mais les candidats, non, je ne me souviens pas. Et le premier mot non plus.
Voilà, un homme, une femme, et le premier mot c'était joie. C'est joli, c'est 4 lettres seulement, mais c'est quand même un joli départ.
Ah oui, oui, 4 lettres c'était pas beaucoup, mais effectivement, ah oui, c'est un joli départ. Ben, vous voyez, vous me l'apprenez, vous allez embellir ma journée.
En 1972, on assiste aussi à une naissance télévisuelle, celle de la troisième chaîne. Elle émet pour la première fois le 31 décembre 1972 à 19h. Et en couleur, s'il vous plaît.
Ici, c'est en retard de 2 minutes. Il est 48:30.
Tu ne bouges plus, Couchou. Attention, c'est dans 15 secondes. Attention.
12, 11, 10, 9, 8,
top magnéto.
7, 6, 5, 4.
Vas-y.
Moteur.
Ça tourne.
Vas-y, passe.
Je n'ai pas.
L'antenne.
11.
Vas-y.
Descends de la télévision, troisième chaîne, première fois.
Les premières secondes de la troisième chaîne sont très étranges. Deux hommes, deux chansonniers, Maurice Orgue et Robert Roquin, échangent quelques mots sur un fond multicolore à l'ambiance psychédélique.
Voilà. Voilà ce que c'est la troisième chaîne, juste avant la troisième chaîne.
C'est peu de choses, finalement.
Ah, on peut même dire que c'est rien du tout.
Rien du tout.
Rien que les ondes de M. Hertz et de M. Maxwell qui courent dans tous les sens. Tout le monde ne les voit pas.
Ça ne vous fait pas froid dans le dos, cette troisième chaîne privée de troisième chaîne?
Si, bien sûr. Remarquez, c'est peut-être le moment le plus exaltant de son histoire.
Comment ça?
Ben, aucune déception, aucun faux pas, pas de critique, pas l'ombre d'un téléspectateur courroucé.
Notez que ce téléspectateur-là serait un ingrat parce qu'en janvier, il a versé pour deux chaînes et on lui en donne une troisième avant la fin de l'année.
Toujours au cours de l'inauguration, le chansonnier Maurice Orgue s'interroge. Pourquoi une troisième chaîne? Pour le savoir, il se rend au siège de l'ORTF afin d'interroger l'un des responsables.
Entrez.
Monsieur le directeur, puis-je vous poser une question au nom des téléspectateurs français?
Entrez, je vous en prie, asseyez-vous.
Merci. Voilà. Monsieur le directeur, au nom des téléspectateurs de France, je voudrais vous poser cette question. La troisième chaîne. Pourquoi?
Parce que...
Voilà donc la réaction officielle.
Intéressant, succinct, mais intéressant.
Autre originalité de cette soirée de lancement, dans un coin du studio, un homme est posté devant deux téléviseurs. Il est chargé de surveiller ce qui se passe ailleurs.
Monsieur le surveillant de chaîne, que se passe-t-il en ce moment sur la première et sur la deuxième?
Ben c'est pas mal, mais enfin ça vaut pas le coup d'abandonner la troisième.
La troisième chaîne s'appuie sur des moyens techniques en région et sur une programmation décalée. Le journal est à 18h30 et à 22h30. Et la rédaction en chef du premier journal d'Inter 3 est assurée par un ancien d'Europe numéro 1, Christian Bernadac.
Vous savez, c'est toujours un miracle, vous le savez aussi bien que moi. On se demande 10 minutes avant l'émission si ça va marcher, car en fait, un journal, c'est tous les soirs une dramatique qui se joue en direct. Et je pense qu'on l'oublie un peu souvent, et on l'oublie un peu souvent même à la télévision. 2 minutes avant le départ de l'antenne, on ne savait pas si le journal allait marcher. Mais je vais vous dire quelque chose en cachette. On ne fait jamais une répétition pour un journal. Ben aujourd'hui, on l'avait répété quand même.
We'll be right back. private dick does a sex machine to all the chicks. You're damn right. C'était Isaac Hayes avec la bande originale du film Shaft.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1972, à quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Sapporo, au Japon, la vedette du ski alpin autrichien, Karl Schranz, est déclarée persona non grata.
Étant donné l'activité et l'influence de Karl Schranz dans les compétitions de ski alpin, et le fait qu'il ait permis que son nom et sa photographie servent de support publicitaire au cours de ces dernières années, celui-ci soit déclaré non admissible aux 11e Jeux Olympiques d'hiver de Sapporo.
Schranz fait du business sur son nom et ça ne plaît pas. Mais la décision de lui interdire les Jeux Olympiques fait polémique. Pour Jean Béranger, l'un des entraîneurs de l'équipe de France, c'est même un scandale.
Il est lamentable d'avoir attendu la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques pour le disqualifier. Il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt. Maintenant, nous sommes tous ici. Karl Schranz vient de remporter de brillantes victoires dans ces derniers jours. Et je crois que son absence aux Jeux Olympiques sera regrettée par tous les champions. Comment expliquez-vous le fait que Karl Schranz ait été le seul disqualifié? Eh bien, parce que Schranz a une très longue carrière internationale, ça fait déjà 15 ans qu'il court maintenant, et puis parce que aussi il a, je dois le dire, peut-être ces derniers temps, été un peu moins discret, peut-être que les autres champions. Il a peut-être créé une espèce de provocation de temps en temps vis-à-vis des dirigeants, il ne s'est pas caché de certaines choses, il a refusé un peu, il a toujours été à la pointe du combat pour refuser... de cacher les marques sur les skis, etc. C'est la raison pour laquelle il est évité.
Il faudra attendre 1981 pour que le Comité international olympique, le CIO, accepte la participation de sportifs professionnels. En tennis, en revanche, les professionnels ont le droit de participer aux épreuves majeures comme Roland Garros. Et en 1972, un Français se qualifie pour la finale, ce qui n'était pas arrivé depuis 9 ans. Il a 23 ans, il s'appelle Patrick Proisy.
C'est la phase de match, à la seconde même, Proisy, follement taclonné par Roland Garros, a battu Manuel Orantes en 3-7. C'est tellement énorme, Patrick Proisy qui bat Orantes en 3-7 en demi-finale. Vous entendez les acclamations du public de Roland Garros. Proisy est un peu blanc, un peu contracté, il salue la foule. Il gagne maintenant les vestiaires sous les plaques des photographes et sous les yeux de M. Chaban-Delmas qui est venu assister au dernier essai.
Le Premier ministre Chaban-Delmas est un fan de tennis, excellent joueur lui-même. D'ailleurs, cette année-là, il atteint la finale de l'épreuve du double messieurs chez les vétérans. Mais quand il s'apprête à féliciter Proisy après le match, quelques sifflets se font entendre.
Voici le cours central de Roland-Garros dans une ambiance absolument extraordinaire, l'ambiance des grands jours, l'ambiance d'un tennis français retrouvé. Patrick Proisy, après avoir battu Yann Kodesh, qui était le favori du tournoi, vient de mettre KO, littéralement KO, car il l'a battu en 3 manches, vient de battre maintenant Manolito Orantes. Orantes qui, après Kodesh, était le favori de ce tournoi. Orantes qui n'avait pas perdu un match depuis 2 mois. Alors que Monsieur le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, vient lui-même s'est déplacé pour féliciter Patrick Proisy. C'est vraiment parmi tous les hommages qui lui sont rendus un très bel hommage du Premier ministre, car on sait que Monsieur Jacques Chaban-Delmas est un vrai connaisseur en tennis, qu'il y joue lui-même fort bien.
Le Premier ministre Chaban-Delmas est de nouveau spectateur le surlendemain pour la finale. Mais cette fois, ça ne porte pas chance aux Français qui s'inclinent devant l'Espagnol de 34 ans, Andrés Gimeno.
J'ai vraiment tout essayé, mais je crois que je suis tombé sur quelqu'un de plus fort que moi. Et vraiment, il a sorti un tennis de rêve, il n'a rien raté, il a réussi tout ce qu'il a voulu. Vous savez, c'est le tennis. Moi, J'ai joué comme ça contre Kodesh, contre Orantes, et puis à part les deux premiers sets, j'ai été dominé par Gimeno. Malgré son âge, tout le monde s'accorde à dire qu'il a fourni son meilleur match, et personnellement je serais tenté de le croire, simplement je regretterais qu'une chose, c'est moi peut-être ne m'être pas présenté tout à fait au meilleur de ma forme, mais vous savez, c'est très très difficile de jouer à la limite de ses possibilités pendant tout un tournoi, et peut-être que je ne suis pas encore assez fort pour gagner quand je joue pas très bien contre un joueur comme Gimeno.
1972, Ondelat raconte sur Europe 1.
Je n'ai eu besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne pour m'aider à voir l'amour. Besoin de personne quand je me suis fait.
La grande Véronique Sanson avec Besoin de personne, un 45 tours qui s'est écoulé en 1972 à plus de 100 000 exemplaires.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas.
Le 1er janvier 1972, l'année vient à peine de commencer, quand on apprend que Maurice Chevalier est mort à l'âge de 83 ans. Comme il le disait sur l'antenne d'Europe numéro 1 quelques temps auparavant, la bonne année, mieux vaut la souhaiter toute l'année. On ne peut que lui donner raison.
Il peut se passer tellement de choses entre un 1er janvier et un 31 décembre, des choses merveilleuses ou des choses pitoyables, que je pense que maintenant, ce serait mieux alors de se souhaiter la bonne année tous les jours de l'année. Ouais. Au lieu de se dire bonjour, on se dirait bonne année. Ouais. On dirait bonne année, tu vas bien, bonne année, tu es content de ton travail, bonne année, qu'est-ce que tu fais ce soir, bonne année, parce que ça viendrait comme ça, une espèce de prière journalière et universelle, et peut-être même que ça nous protégerait au cas où ils doivent nous tomber sur le cigare, des choses un peu trop lourdes, vous comprenez ? Il y a une idée, non ?
Une idée, et quelle idée ? Lors de cet entretien, Maurice Chevalier reconnaît avoir eu beaucoup de chance dans la vie.
Je pense que j'étais un homme très vénard d'avoir une personnalité différente des autres, d'avoir une personnalité de Français qui touchait l'étranger, qui touchait les gens de tous les pays, que les chansons que j'ai chantées, quand on les entend toute la journée, on est forcé de tout de même de se rendre compte que ce n'étaient pas des chansons idiotes, que toutes ces chansons-là étaient différentes, avaient un son différent, avaient des mélodies différentes, avaient des thèmes différents. Et je pensais que j'avais été très vénard d'avoir eu les paroliers, les compositeurs que j'ai eus, et d'avoir pu, moi, traverser toutes ces générations-là et tout de même m'ajuster au temps que je traversais, suivant les âges, et d'avoir conservé à ce point-là l'affection du public.
Dès l'annonce de son décès, ses fans se précipitent devant chez lui à Marne-la-Coquette, en banlieue parisienne.
Nous le connaissions de vue et nous l'estimons beaucoup, alors c'est pourquoi nous sommes venus rendre hommage à M. Chevalier ce soir. Vous avez les larmes aux yeux, vous êtes là avec votre femme, et pourtant vous ne connaissiez pas personnellement Maurice Chevalier.
Non, nous ne connaissions pas personnellement, mais pour nous, c'est un grand monsieur, très très grand.
Vous avez quel âge, monsieur ?
J'ai 23 ans.
Pourquoi êtes-vous venu ce soir ici ?
C'est le culte des gens qui m'ont quand même impressionné, quoi, c'est ça ? C'est un homme qui a, par ses chansons, marqué ma jeunesse, quoi. C'était parmi de ceux qui ont fait les refrains qu'on prenait, quoi, des choses agréables, joyeuses, quoi.
Vous avez quel âge, monsieur ?
Moi, j'ai 45 ans.
Vous serez là aussi le jour de ses obsèques ?
Ah si, je peux, oui, je crois, oui.
C'est quand même un grand monsieur de la chanson, pour moi.
Vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans.
Ça faisait déjà 2 semaines que Maurice Chevalier était hospitalisé à l'hôpital Necker. Certains évoquent une intoxication, mais le directeur de l'hôpital dément.
Sa mort n'est pas due à une intoxication, puisqu'il est mort brusquement d'un arrêt cardiaque. Monsieur Maurice Chevalier, ne l'oubliez pas, avait tout de même 83 ans. Et quand on m'a demandé si les séances de dialyse pouvaient être fatigantes pour un malade ou éprouvantes, surtout dans le cas de maladies aiguës, nous n'avons pas caché que, bien entendu, une certaine fatigue pouvait en résulter. Le communiqué de ce matin faisait état simplement du calme de la nuit, de l'absence de modification dans son état général, donc de l'absence d'inquiétude immédiate pour le corps médical.
C'était en somme une journée comme les autres.
Ah, comme les autres. Est-ce que les journées sont comme les autres lorsqu'on se trouve dans cet état et dans des services comme celui-là ? C'était en tout cas une journée pour laquelle nous ne pensions pas qu'il y aurait un déroulement aussi brutal.
Et en attendant les obsèques, le corps de Maurice Chevalier est transporté à la Louque, sa belle demeure de Marne-la-Coquette.
À la lisière des bois de fausse repose, les volets peints en verre de la grande maison blanche restent fermés sous la pluie fine qui tombe depuis ce matin. Devant le lourd portail de chêne de la Louque, aux 4 de la rue des Réservoirs, 4 policiers veillent. Un peu plus bas, la rue est barrée, mais comme il l'avait voulu lui-même, personne n'a cherché à venir ce matin. Il repose seul au premier étage de sa maison, dans sa chambre au mur tapissé des photos de ses succès, des affiches de ses galas et de toiles de maître. Autour de lui, ses neveux, René et Maurice Chevalier, Félix Paquet, son secrétaire, et Madame Paquet se relaient 24 heures sur 24. Tout à l'heure, la porte de service s'est entrouverte quelques instants pour laisser entrer un livreur qui apportait du café et des provisions, et puis aussi bien sûr pour le télégraphiste de Marne-la-Coquette qui continue d'amener des dizaines de télégrammes de condoléances.
Le 5 janvier 1972, les obsèques de Maurice Chevalier sont célébrées devant un parterre de proches et de personnalités triées sur le volet.
Les amis de toujours, Félix Paquet, l'impresario, Valls et les deux neveux du chanteur. Il y avait aussi un ministre, M. Duhamel, la princesse Grâce de Monaco, Michel Simon, Marcel Amont, Carpentier, Mireille, Fernand Reynaud, Tino Rossi, Zavatta, etc. et bien d'autres connus ou inconnus. La cérémonie proprement dite très simple a duré environ 3 quarts d'heure. Le père Carré, l'ancien aumônier des artistes qui connaissait personnellement Maurice Chevalier, a prononcé l'homélie dont voici quelques extraits.
C'est en chrétien qu'il est mort. Il n'a pas eu peur de ce qu'il appelait, me disait-il à l'hôpital Necker, du suprême affrontement.
Plus tard, on apprendra que Maurice Chevalier est en réalité décédé des suites de complications dues à une tentative de suicide datant de l'année précédente, de mars 1971. Il avait même laissé un mot que voici. « Mes chers enfants, j'ai eu la plus belle carrière dont a pu rêver un gosse de Ménilmontant, mais j'ai une fin de vie pitoyable. Je vous demande pardon. » Vous êtes tous sur mon testament. Nous nous reverrons un jour là-haut. Je vous embrasse.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, ivre de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints en criant. Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Y a de la joie et du soleil dans les ruelles, y a de la joie partout, y a de la sam, sam, sam. Tout le jour, mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie partout, y a de la sam, 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 joie.
Il y a de la joie, chanson de Maurice Chevalier, disparu en 1972. La suite de notre exploration de l'année 1972 dans le deuxième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.